Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 28 mai 2014. Il est un peu plus de 14h, 14h et 4 minutes. Promis, un jour, nous réussirons à commencer à l'heure. Christophe Rollin au micro, Gérald est dans la place. Il y a également Clara pour parler de l'exposition Calaferte qui se tient à la bibliothèque de La Part-Dieu, bibliothèque municipale de Lyon. C'est jusqu'au 31 mai, donc il reste encore quelques jours pour s'y rendre. Exposition très intéressante, donc Clara, une grande spécialiste, nous évoquera, nous indiquera tout un tas de choses. Gérald s'y est rendu, donc il pourra également nous indiquer, nous exposer son opinion. Enfin bref, nous verrons tout cela. Une première musique pour introduire de Marjane, une chanson Ma vie s'éveille, orchestre de Pierre Spire, disque pâté PG934. Je trouve cela sur YouTube. Donc c'est notre premier instant musical pour introduire cette émission spéciale Calaferte, émission 34-35. Spectaculaire, happy anniversaire. Nous avons un an puisque l'émission a commencé le 22 mai 2013. Et là, comme nous sommes le 28 mai 2014, cela fait à peu près un an. L'émission continue jusqu'à 15h et voilà, nous sommes bien sur radiocanu.org si vous écoutez sur internet ou bien le 102.2 de la bande FM à Lyon. Marjane,
Léo Marjane. Bonjour, chers auditeurs de
Salut Gérald.
Spectaculaire. Donc, nous venons d'écouter. En fait, j'ai appris dans le cadre de cette exposition que nous avons visitée il y a maintenant 15 jours avec Clara Vincent, ici présente, qui a commis un master. sur certains écrits de Calafert. Je dis certains parce qu'il est très prolifique, on en reparlera. Donc il a aussi, j'ai appris à l'occasion de cette exposition, il a aussi composé des chansons, notamment celle qu'on vient d'entendre, la seule que j'ai trouvée sur internet, interprétée par Léo Marjane, une chanteuse qui chante depuis les années 30, et publiée en 1954 sur un texte de Louis Calafert. Il a été aussi mis en musique dans des spectacles, et il a aussi écrit des chansons pour enfants, des poèmes qui ont été mis en musique, mais que je n'arrive pas à trouver sur internet. Voilà.
Qu'est-ce que cela est complet? Donc nous parlons de cette exposition. Zut, j'ai perdu le flyer qui...
Donc la poésie ne s'invente pas, qui a commencé le 8 mars et qui finit le 31 mai.
À la bibliothèque municipale de Lyon, la centrale, c'est voilà. La bibliothèque de la Part-Dieu.
Où se font les expositions générales au dernier étage.
Au quatrième étage.
Il y a eu des expositions Truffemus, alors on pourra en reparler, puisque Truffemus et Calafert...
C'était il y a 10 ans, ça.
...sont des grands amis. Et ils ont beaucoup collaboré ensemble. Il y a une correspondance et c'était vraiment des grands amis. Le peintre, l'artiste, on va dire plasticien le plus proche de Calafert a été Truffemus. Mais pour nous parler, nous présenter en quelques mots, peut-être avant d'attaquer le cœur du sujet, qui est cette exposition, on va laisser la parole à Clara qui va pouvoir se présenter et nous parler après de Calafert et nous présenter en gros Calafert.
Notre invitée Clara Vincent, bonjour.
Bonjour à vous.
Nous nous sommes dit que nous n'évoquerions pas d'autres activités que vous avez. En fait, si, il faudrait quand même en dire un seul mot. Mais bon, on le fera après. Alors tout d'abord, je ne sais pas, voilà, vous avez le micro est à vous. Comment pourriez-vous vous présenter, indiquer différentes choses
pour que nous puissions mieux vous connaître? J'ai une formation en lettres et j'ai fait mon mémoire de Master 2 sur certains récits de Louis Calafert et notamment Septentrion qui reste son chef-d'œuvre. Et parallèlement, donc, j'ai démarré une activité d'enseignement en collège et également une activité de théâtre. Et donc, j'ai monté une compagnie de théâtre, mais je ne monte pas de théâtre de Calafert, bien qu'il ait écrit de nombreuses pièces, parce que ce n'est pas ce que je préfère chez lui.
Voilà. Un polygraphe, nous disions. Pourrions-nous rappeler ces dates? 1928
et 1994.
Donc, voilà. Décédé il y a 20 ans. C'est un peu la raison, c'est ça? Parce que alors, moi, cette exposition, j'en ai entendu parler, je ne m'y suis pas rendu. C'est la raison, c'est ça? C'est Guillemette, je suppose.
Voilà,
c'est
la donation de sa veuve.
Et qui...
Une énorme donation vraiment spectaculaire parce qu'il a écrit des milliers de pages dans tous les domaines. Bon, pour le dossier de presse, il n'y avait pas de dossier de presse, j'ai glané quelques informations sur le site qui est très bien fait de la bibliothèque de la Part-Dieu. Donc je vous invite à aller consulter le site, ceux qui s'intéressent, avant ou après l'exposition, pour découvrir cet écrivain que je tiens pour un très grand écrivain, mais injustement peut-être oublié ou méconnu à Lyon. Clara pourra nous raconter des anecdotes à ce
Absolument.
Propos.
Une grande figure lyonnaise, donc décédée il y a 20 ans, alors décédée en 94, repartons sur sa naissance. Peut-être pourrions-nous dire quelques mots de Calafert, ou alors non, on se disait que Clara, oui, vous avez quand même une activité, oui, il faut tout de même l'évoquer, puisque
comment,
Gérald, on en a fait la publicité, Gérald.
Comment elle a rencontré Calafert, tout d'un coup?
Oui, bien sûr, mais alors il faudra aussi, moi j'y tiens quand même si nous nous étions dit que nous n'évoquerions pas cela, il me semble, nous nous en sommes fait l'écho, Gérald, lors d'une émission, on avait indiqué en fin d'émission que...
Oui.
Le cabaret Biscornu.
Et le cabaret Biscornu est prévu pour une émission spéciale cabaret Biscornu avec jeu et musique en direct. Ce sera une prochaine émission.
C'était pour le 14 février, non? C'était pas la contre Saint-Valentin, c'est ça?
Voilà. Notamment, on en avait parlé, oui.
Donc, Clara.
On en reparlera une autre fois, mais j'aimerais autant parler de Calafert puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et effectivement, moi, j'ai découvert Calafert par le théâtre puisque j'ai des amis qui avaient joué dans une pièce et on m'avait conseillé Septentrion, que je suis tombée dessus par hasard. Quelques temps plus tard, et j'ai commencé à lire, je me souviens, dans un train sur la ligne Bourg-en-Bresse-Lyon, et ça a été un véritable coup de massue pour moi, en fait. Donc j'ai tout de suite décidé de creuser, puisqu'il me fallait justement un sujet de mémoire. Et en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il avait beaucoup de ressemblances avec ma vie. Par exemple, il a grandi dans la même rue où moi-même j'ai grandi, dans le 3e arrondissement de Lyon. Il est parti à Paris assez jeune dans le but de devenir comédien. Il a écrit quelques textes, il a figuré au théâtre du Vieux Colombier à Paris, mais ça n'a jamais donné quoi que ce soit. Et au final, il a toujours dit lui-même qu'il savait depuis le début qu'il était écrivain avant tout. Mmh. Et voilà, il y a cette idée chez lui qu'on est d'abord écrivain, et puis après, il faut se mettre à écrire les livres qu'on porte en soi depuis toujours, en fait. Voilà.
Donc entre 47 et 94, il a consacré 50 ans, je lis hein, le topo de la bibliothèque, 50 ans à une œuvre largement autobiographique, riche d'une centaine de titres. Il écrivit des milliers de pages à l'encre verte longtemps et prit ensuite l'habitude pour l'écriture de ses livres d'utiliser les cahiers dans lesquels il rédigeait son journal, souvent délaissés pendant les phases de création. D'une écriture minuscule et serrée, on voit des manuscrits d'ailleurs impressionnants à l'exposition, difficiles à lire, ou plutôt concentrés, avec un système d'abréviation, peu de ratures, mais d'une relecture difficile qui le faisait parfois renoncer lors de la frappe dactylographiée à certains mots. Guillemette, donc son épouse, l'accompagnera, qui a fait la donation à la bibliothèque de la Pardieu, l'accompagnera dans cette aventure liée à la création sous toutes ses formes. Au long de ce chemin tour à tour, auditrice, la première à juger des écrits, relisant elle aussi jusqu'à apprivoiser mieux que le rédacteur même cette écriture, dactylographiant, assurant les corrections en vue d'édition.
C'est extrêmement intéressant ça, parce que Calafate fait partie de ces auteurs qui voient comme ça l'écriture comme une sorte de don divin. Il y a une vraie mystique de l'écrivain, et donc il y avait des moments comme ça de foisonnement où il écrivait beaucoup, énormément de pages, il alternait avec de grandes périodes de stérilité où il se contentait de lire, puisque c'était un lecteur absolument hallucinant. Il a lu enfin, c'était quasiment un livre par jour pendant toute sa vie,
voire plus. On voit d'ailleurs à l'expo une vidéo qui filme son atelier, bureau, qui est blindé de livres partout.
Cabinet.
Une collection de tasses sur des poutres, c'est très chargé, c'est beaucoup d'œuvres aussi. Il était en contact avec pas mal d'artistes et de plasticiens. Ça a donné lieu à pas mal de publications aussi.
Donc, grand écrivain et grand lecteur, vous disiez,
oui.
Clara.
Absolument. Et voilà, je suis.
Nous sommes interrompus. Mais revenons peut-être plus précisément, parce que donc peut-être, je ne sais pas, deux, trois temps de conversation autour de cette exposition. Tout d'abord, la personne de Louis Calafert, et puis ensuite, nous évoquerons bien plus précisément cette exposition. Enfin, nous évoquerons une sorte de nœud de politesse. Moi, je n'y ai pas assisté, donc c'est surtout, je ne l'ai pas visité, c'est surtout Clara et Gérald qui indiqueront, je ne sais pas, quelles sont les pièces à isoler, à bien aller voir, ou quelles sont éventuellement les défauts, enfin je ne sais pas comment nommer cela, quels sont peut-être les problèmes de cette exposition, mais pour l'instant partons plus précisément de ce personnage. Né à Lyon, on reprend peut-être le tout début, né à Lyon en 28, et est né alors dans ce quartier de Montchat, vous ne l'aviez pas donné tout à l'heure, la rue aussi.
La rue Roussoigna dans le troisième.
Il y a donc habité, et ce qui était intéressant, à l'instant Gérald vient de dire beaucoup d'écrits autobiographiques, mais son premier livre, il évoque le quartier de Gerland, et un quartier dans lequel...
Absolument. Les faubourgs de Gerland, donc qui était une sorte d'énorme terrain vague, exactement. Et Requiem des Innocents, qui a été un énorme succès à sa sortie, qui raconte cette misère très noire, une mère complètement castratrice, de nombreux traumatismes, dans une écriture extrêmement lyrique. Et Calafert est revenu là-dessus en disant que justement c'était une œuvre de jeunesse, qu'il ne l'assumait pas. Et beaucoup de personnes pensent que c'est un récit autobiographique, alors qu'il n'en est rien, en fait. Mmh. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que Calafert a toujours dit dans les interviews, tout le temps, en fait, partout, qu'il n'écrivait que sa vie, que c'était pas un inventeur, qu'il était là pour décrire ce qu'il voyait. Et en même temps, quand on se penche comme ça sur sa biographie, on se rend compte que non, l'écriture lui sert à cristalliser, à sublimer comme ça des choses, des relations, des personnes réelles, en fait.
Voilà. Mmh. Ça va au-delà. Oui.
Quel jugement portez-vous vous-même, Clara, sur ces deux premiers ouvrages de jeunesse, Requiem
des innocents
et l'autre titre.
C'est Partage des vivants, mais le deuxième, moi, j'ai jamais réussi à me le procurer. Il est complètement épuisé. Et j'ai, voilà. Du coup, j'ai pas cherché à le lire, mais.
Requiem des innocents.
Requiem des innocents, par contre, si, ça emporte vraiment. C'est une lecture absolument qui prend en tripes, en fait. Enfin, lui-même disait qu'un livre devait être un crachin pulmonaire. C'est pour dire à quel point l'écriture est viscérale pour lui. Et voilà. Donc, non, c'est une œuvre qui plaît en tant que lecteur, mais lui, je pense qu'il a dû se rendre compte qu'il avait donné beaucoup de lui. Et il est revenu dessus.
Mais alors c'est paradoxal, beaucoup de lui, mais pas de lui autobiographique, puisque non. Ce quartier de Gerland, enfin du moins, et cette misère et cette mère castratrice, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas ce que lui-même a vécu, c'est
voilà,
ça.
Absolument. Ouais.
À quel âge la publie-t-il cette première œuvre?
52, non?
Ça doit être ça.
Avec 50.
Un petit peu avant. Semble.
Donc c'est une vingtaine d'années, c'est ça, à peine plus.
Voilà. Si c'est né en 28. C'est ça. Oui, il avait 20 ans. Hein. Il a eu la chance de rencontrer des éditeurs qui l'ont. qui l'ont pris sous son aile, en fait, voilà. Voilà. Dont Julliard. Lui, il leur a amené des manuscrits immenses, sans chapitres, sans paragraphes, sans rien. Et donc, il a été aidé à reformer tout ça. Il a appris à s'organiser. Mais lui, il y avait quelque chose vraiment. Comme il n'avait pas été éduqué, qu'il a eu des accès à la lecture, il volait les livres qu'il lisait. Il a volé un Shakespeare une fois, ça l'a complètement emporté. Alors que lui-même, il a travaillé dans une usine de piles très jeune et il n'a jamais reçu d'éducation. Donc c'est un autodidacte complet.
Voilà. De quoi a-t-il vécu alors? A-t-il fini par vivre de sa plume ou bien est-il resté
Il a eu un travail alimentaire, excuse-moi.
Mais justement, non, absolument.
C'est très bien, ouais. Son travail alimentaire comme critique, animateur et producteur à la station radiophonique de Lyon. L'a souvent rappelé dans cette ville qu'il a aimé. En fait, il préférait Lyon à Paris et c'est pas pour rien. Il tenait à ce que donc sa bibliothèque constitue un fonds et il voulait le léguer à une bibliothèque et il a choisi Lyon. Un peu contre Paris, je crois.
Oui, totalement.
Je n'ai pas totalement suivi sa biographie. Donc, il a quitté Lyon. Il n'y a pas habité toute
sa vie. Il a quitté Lyon dans sa jeunesse, mais après, il est revenu. Il a habité à Mornant, pas très loin de Lyon aussi. Et il a fini ses jours à Blaisibas. Voilà.
Où?
Donc, à Blaisibas.
C'est où?
C'est dans le nord, quoi.
Les monts du Lyonnais.
Non, plus haut.
Et donc Paris, il y a passé une importante partie de sa vie?
Non. Quelques années, en fait. Le temps que son premier livre ait du succès et qu'il se rende compte qu'il détestait tous les cercles mondains parisiens. C'était un homme très solitaire et finalement, c'était un ermite. Il a toujours dit: j'ai eu 2-3 amis dans ma vie. Parler ne m'intéresse pas. Ça revient beaucoup dans son œuvre, ça. Il lui faut sa femme qu'il aimait, ses livres et sa plume.
Nous parlions du théâtre. On va revenir, oui, éventuellement, Jacques Trifémus. Nous parlions du théâtre du Vieux Colombier. Donc il y revenait, il y retournait, ou c'est quelle relation a-t-il eu avec
Non, il a arrêté très vite. À partir du moment où il s'est mis à écrire, que ça a un petit peu fonctionné, il a décidé qu'il vivrait de sa plume. Il a assumé totalement le fait de vivre très pauvrement, parce que ce qui l'intéresse, et il le dit tout le temps, l'important c'est pas l'argent, l'important c'est l'authenticité, c'est la nature, c'est l'amour. Il a un discours sur l'amour comme ça qui peut paraître un peu vieilli, mais moi qui me parle énormément.
Nous parlions de Jacques Trifémus, oui. Gérald,
on peut continuer avec Calafert, puisqu'on n'a pas précisé quand même qu'il est né le 14 juillet 1928 à Turin. Calafert, d'origine italienne. Après des études primaires à Lyon, il occupe divers emplois dans des usines de la ville jusqu'en 1947, où il s'installe à Paris. Il y publie en 1952 son premier roman Requiem des innocents chez Julliard, qui, par son ton sincère et pudique à la fois, le fera remarquer de la critique littéraire. Depuis lors, aucun de ses livres, Partage des vivants chez Julliard, Septentrion, Chou, No Man's Land, Julliard, Satori, Rosa Mystica, Portrait de l'enfant, Interland, et le dernier, Limite. Ça, c'est une quatrième de couverture d'un livre ancien déjà. N'a laissé indifférent ni la critique ni le public. Depuis 1956, Louis Calafert vit à Lyon et collabore régulièrement à l'ORTF.
Voilà,
ça, c'est
la
quatrième de Mégaphonie, une pièce de théâtre. Théâtre ouvert stock. Édition plutôt des années 70, assez ancienne.
Moi, j'ai
72.
J'ai deux questions avant que peut-être nous entrions plus en détail dans cette exposition Louis Calafert, qui est à la bibliothèque de la Part-Dieu. Cela se termine ce samedi 31 mai. Deux questions. En fait, vous avez déjà un peu répondu, Clara. C'est: est-ce qu'on peut trouver tout Calafert? Et vous avez déjà indiqué que son deuxième titre était indisponible. Disons, on ne pouvait pas mettre la main dessus. Et puis alors, autre question. Vous-même, Clara Vincent, est-ce que vous pouvez considérer, dire, ou disons, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous avez lu tout Calafert? Un paquet de choses.
Alors, pour répondre à la première question, en cherchant bien, on trouve, ne serait-ce qu'en s'adressant au fond de la bibliothèque de la Part-Dieu, puisqu'ils ont,
ils ont tout,
en fait.
Après, en bouquinerie,
faut prendre le temps de faire son petit papier, de le prendre au silo, et certains doivent être consultés sur place. C'est pour ça, je crois que c'était le cas de Partage des vivants. C'est vrai que j'ai dû le feuilleter, mais j'ai pas tout lu.
Ça, c'est son deuxième titre, c'est ça?
Son deuxième titre. Publication, oui. Est-ce que j'ai tout lu de Louis Calafert? Non.
C'est impossible.
C'est possible. Il faut simplement y passer quelques bons mois, quoi. Ouais. Lui-même, il a fait ça, lire des auteurs extrêmement prolifiques. Il s'est fait comme ça, avec sa femme Tolstoy, de A à Z, tout. Une sorte de Tolstoyomanie, quoi. Donc lui, il le faisait. Moi, j'ai pas eu le courage de tout lire, d'autant que je préfère ses récits à sa poésie ou son théâtre. Donc non, je n'ai pas tout lu de Louis Calafert.
On parlait de Tolstoï, il me semble que Tolstoï aussi, ce sont de grandes œuvres, enfin du moins de, je ne sais pas quel terme employer, des grosses œuvres en termes de volume. Est-ce qu'effectivement, de la même manière, est-ce que les publications de Calafert sont aussi des choses épaisses ou
c'est très varié.
Non, mais c'est surtout, alors, c'est surtout le nombre, c'est ça, c'est
qu'il y a vraiment... En fait, il a commencé par écrire beaucoup. Il en avait besoin, il avait une passion de la langue qui faisait qu'il avait... besoin d'écrire des pages et des pages, et plus il est allé dans la maturité, en fait, à la fois d'homme et d'écrivain, plus il est tombé vers une écriture beaucoup plus aphoristique, beaucoup plus courte, avec certains livres où on a simplement des phrases comme ça jetées. Et voilà, donc il est parti de quelque chose de très très maximaliste, j'ai envie de dire, pour arriver vers un minimalisme, en fait.
En même temps, assumé. Son écriture enfin, elle n'est pas minimaliste, elle est un peu maniériste, enfin baroque, je ne sais pas comment la qualifier.
Ça dépend des écrits.
Ça dépend des écrits.
Trouve, oui.
Il touche à tout et
c'est sûr
il se renouvelle
quand on
tout
parle
le temps.
De Septentrion, où des phrases font une page, on en perd le début, la fin, ça peut paraître extrêmement abondant, mais dans d'autres œuvres, il a été beaucoup plus concis, je trouve. Voilà.
Un habitué de l'oxymore, il me semble.
Oui. Non, ah oui, oui. Si on peut définir un auteur par ses figures de style, oui, l'oxymore pour Calafert, c'est certain.
Ce serait ça. Ouais.
Ah ben voilà, très bien, j'avais encore deux questions. La première, vous y répondez, c'était comment, alors après c'est toujours un exercice peut-être compliqué, surtout à la radio, comment caractériser le style de Calafert, comment évoquer ça? Et puis peut-être une dernière chose, comme ça on aura fait un tour. Ces dernières années, c'est cette mort en 94 à un peu jeune, hein, 66 ans, il me semble avoir calculé, c'est ça, de 28 à 94. Enfin, comment s'est passée la fin de sa vie, 66 ans, c'est peut-être un peu jeune, est-ce une maladie qu'il a emportée ou je ne sais quoi. Donc tout d'abord peut-être son style, quelle est son écriture, donc des phrases, une page, c'est un peu proustien, c'est ça peut-être, vous parlez tout à l'heure de lyrisme.
Alors la personne à qui on a le plus comparé, c'est Céline. On a souvent dit il a une écriture à la Céline, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que dans Céline il y a une sorte de frénésie avec les points de suspension comme ça, donc moi je pense que c'est pas tout à fait juste, mais effectivement je pense que si on aime le style de Céline, on aimera le style de Calafert. Voilà.
Oxymore, nous disions, lyrisme aussi.
Lyrisme, c'est... oui. Mais lyrisme au début. Il a écrit pendant 42 ans. Hein. Il y avait du lyrisme au début qui, petit à petit, s'est étiolé. Il est devenu vers quelque chose de plus pur. C'est comme si, en fait, il avait été dans une révélation du langage, de voir tous ces mots qui existaient, avoir envie de les employer tous. Il utilise des. Moi-même, il faut que je lise Calafert avec un dictionnaire. Septentrion, je lis avec un dictionnaire. Parce qu'il utilise des mots. Qu'il a, voilà, complètement très rare, très précieux, qui ont des sonorités extrêmement intéressantes comme ça. Et plus ça va, plus il est parti vers quelque chose d'épuré, comme s'il a, il avait fallu qu'il prenne une sorte de. Que le langage était un. Je sais pas, une pierre, et qu'il a ciselé petit à petit et fait. Qu'il en a fait une statue, quoi. Enfin,
d'ailleurs, on en reparlera, puisqu'il a aussi. C'était aussi un plasticien.
C'était aussi un plasticien, oui.
Il a
donc
aussi réalisé des sculptures, des dessins, d'une approche très intéressante, parce que justement, encore une fois, très autodidacte, qui
a puisé
dans son fond intérieur, comme un Chessac ou d'autres, un côté pas art brut, mais proche de cette tendance-là,
c'est
puisqu'il
n'a
pas fait d'école. Il a une spontanéité dans la peinture qu'il a peut-être moins dans l'écriture, justement. Il a fait aussi des expériences Ouroboros, on aurait pu en lire des extraits, ou à la manière d'un Dubuffet ou d'un Gerasim Luca, le poète roumain. Il va maltraiter, malaxer la langue française en inventant un langage de A à Z, en remplaçant des mots par d'autres, comme Henri Michaud a fait aussi. Enfin, beaucoup d'expériences autour du langage, la langue elle-même, mais jamais déconnecté d'un sens profond, métaphysique, existentiel, lyrique, poétique et tout ce qu'on veut.
Est-ce que le français était sa langue maternelle, ou bien nous avons évoqué sa naissance à Turin? Est-ce qu'il a d'abord... C'était... Je suppose que si son père était italien, il y a dû avoir un peu d'italien. Enfin,
il a perdu son père très jeune, donc non, c'est vraiment... Lui se considère comme français, il n'a jamais parlé de ses origines, à ma connaissance.
Moi, c'était en termes de langue. Est-ce que donc le français est sa langue maternelle qu'il a apprise très jeune, et voilà, donc il n'y avait pas eu d'approche du français, une sorte de phénomène, enfin un truc extérieur à appréhender. Et d'ailleurs, ces dernières années, vous avez-vous des renseignements là-dessus, Clara? Comment finit-il donc dans une quel terme employez-vous tout à l'heure, une belle humilité, enfin disons c'est pauvrement, vous l'avez dit.
Oui, c'est ça, un ermitage, c'est ça.
C'est tout, rien de particulier à en dire, quoi. Je me suis dit, ça semblait un peu jeune, 66 ans. C'est...
Il était malade. Après, quelle maladie, je vous avoue que j'ai totalement oublié, parce que c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais bien entendu, et d'ailleurs ce qui vous intéresse vous-même, Clara, et c'est peut-être ce que pourrait faire Gérald, c'est tout de même, nous parlons d'un écrivain, ça en radio, c'est un exercice possible. on peut en lire une page, enfin,
oui,
ou quelque
page,
chose.
Un extrait.
Un extrait,
c'est
voilà.
Très varié.
C'est...
Il y a aussi essais passionnants. Par exemple, j'ai amené pas mal de bouquins là.
Ah oui, c'est une auditeur. Les studios aujourd'hui de Radio Canu, ça ressemble à une bibliothèque.
Il y en a trouvé en bouquinerie il y a pas longtemps.
Des bouquins.
Loïc Alaferte, l'homme vivant. Vivre dans le feu de la raison de la déraison de Dieu, et c'est quasiment un bouquin mystique où il s'intéresse à la question du sacré. Donc c'est un essai sur le religieux et le sacré qui est passionnant, qui a une dimension philosophique et...
Et d'ailleurs, ça pourrait être. On peut lire, moi, il y a une
compétition de lecture.
Dans...
Clara va lire un passage, Gérald aussi, et puis après,
on va lire deux petits textes avant d'écouter un petit morceau de musique
alors,
après.
Oui, c'est
après,
Dominica, c'est ça Dominica, mais alors là, plus de rapport avec.
Un petit peu le sens, peut-être.
Le sens, mais en revanche, ce n'est pas lui qui a écrit les paroles. Il n'y a plus ça, comme tout à l'heure pour Ma vie s'éveille. Clara, un extrait de.
L'homme vivant.
Extrait d'œuvre.
De l'homme vivant, avant de lire, je précise qu'il définit le terme religieux avant de commencer le livre, et il dit que c'est tout ce qui n'a pas affaire à l'officiel fonctionnarisme des clergés, tout ce qui n'est pas prêtrise, tout ce qui se passe de métaphysique dans l'âme d'un homme, tout ce qui est amour d'autrui et tout ce qui est intelligence de vivre. Donc voilà, c'est une mystique, mais c'est une mystique qui est hors des églises, Dieu, voilà, c'est vraiment plus un Dieu intérieur. Je lis l'extrait en question. Le religieux a sa nécessité. Ouvrir aux hommes que nous sommes les voies de l'épanouissement individuel, les voies de la conscience, les voies de la concorde, les voies de la vie. Vous pouvez tout à fait vivre sans conscience du religieux. Pour la plupart, c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire. Êtes-vous bien ? Êtes-vous heureux ? Vos enfants sont-ils bien ? Vos enfants sont-ils heureux ? Est-ce que tout va pour le mieux ? Est-ce qu'autour de vous, tout le monde est heureux ? Est-ce que vous n'avez pas peur ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'autre chose ? Est-ce à ce genre de vie que vous rêviez dans votre adolescence ? Si oui, tout est parfait. Sinon, faites le bilan. Réfléchissez. Réfléchissez sur vous-même. Quand vous aurez fait les comptes et qu'ils seront déficitaires, dites-vous qu'il y a une autre manière de vivre. Pensez-y un peu chaque jour. Ça va aller mieux.
Waouh, c'est une adresse au lecteur. Ouais, c'est...
Il le faisait beaucoup.
Il le fait beaucoup. Ah, donc voilà, une autre technique. Un autre... Mais alors, lecture après, Gérald, très bien.
Parce qu'on va changer de domaine, on passera peut-être des phrases sur la peinture. Il a écrit donc sur la peinture, l'art aussi. C'est intéressant, ça, en partie grâce à son ami Truffemus. Mais il a publié aussi beaucoup de très beaux ouvrages en édition limitée, des livres d'artistes, avec pas mal d'artistes aujourd'hui, assez connus d'ailleurs.
Auditeur, pour entendre Gérald lire quelques lignes de Loïc Alaferte, qui est exposé ces jours-ci à la Bibliothèque Municipale de Lyon, à la Part-Dieu, eh bien, patientez un instant.
D'abord, il faudra d'abord écouter Dominica.
D'abord Dominica, le sens, c'est ça ?
Le sens.
C'est un double album ?
Oui.
Alors, non, ce n'est pas ce titre de Dominica que nous souhaitions vous faire écouter, ce n'est pas le sens.
C'est
compliqué, manipuler les CD, un double album, c'est toujours donc Dominica.
Ça, c'était Valparaiso, ce qui est pas mal non plus.
Ouais, mais Valparaiso, c'était plutôt pour la semaine dernière, voire il y a deux semaines ou un mois, avec le Chili. Là, nous repartons bien. Dominica, le sens, et puis ensuite, nous continuons sur Loïc Alaferte, et c'est Gérald qui vous lira quelques lignes. Il y a une exposition qui est à la Bibliothèque de la Part-Dieu, vous attendez quelques instants, et nous allons vous en parler avec Clara sur Radio Canu, bien entendu.
J'ai cherché dans la rue, j'ai écrit, j'ai aimé, j'ai voyagé, j'ai cru, j'ai nié des évidences, j'ai nagé nu, mais désolé, j'ai pas trouvé le sens. envie de sauter, j'ai pas envie d'une balle. Je préfère exister, même si c'est pour que dalle. J'aime bien respirer, j'aime bien me sentir sale. J'aime avoir de la chance et me faire embrasser. Mais bien sûr, si j'y pense, tout ça n'a pas grand sens. Mais bien sûr, si j'y pense. J'offre tout ce que j'ai, je donne tous mes objets, mes souvenirs aussi. Contre un sens à ma vie, mes mains qui a fait son temps, même un peu décevant, même que pour des vacances, même que le temps du temps. Le temps d'une danse. J'ai tout essayé, j'ai pas trouvé le sens. On dit que pour beaucoup, c'est la même béance. En ont-ils tous conscience tout le temps? Peut-être fallait-il le commander à la naissance, avec un peu de chance, nous parions penser pour nous. Peut-être encore un sens qui attend que j'aille le chercher, sagement à la maternité. Un qui a son box aux urgences. Peut-être ne suis-je pas né, peut-être ne suis-je qu'absence. Tant que ne m'est pas donné
bien, je crois que Dominique A le dit bien. Le sens, hein, c'est ça. Ce sont ses dernières paroles. Enfin, ses dernières paroles sur cette chanson, sur son double album, qui te semblait, Gérald, assez lié. Enfin, comment
c'est
dire.
La question du sens. Et puis, c'est toujours agréable d'écouter Dominica.
Qu'à l'affaire tient, qu'à l'affaire sien. Il est toujours agréable d'écouter Dominica. C'est extrêmement exact. Et je pense qu'il est aussi agréable et bien d'entendre un peu du Louis Calafert dans cette émission spectaculaire 34e, 35e. Je ne sais même plus. 35e, très bien. Et donc, émission consacrée à cette exposition qui a lieu à la bibliothèque de la Pardieu, disons, la bibliothèque municipale de Lyon.
Samedi, dépêchez-vous.
C'est celle du troisième qui est à. Oui, en plus, fermée demain, a priori. Hein.
Mais bon, ah oui, fermée, donc il reste vendredi, samedi. Cet après-midi pour y aller.
C'est indiqué où est-ce indiqué
ici. Le fond,
c'est...
il sera toujours, vous pourrez toujours emprunter à volonté libre. Des Calafertes.
Entrée libre, c'est à l'étage niveau 4, espace patrimoine. C'est ouvert de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Donc, nous parlons de Louis Calafert. Nous en avons beaucoup parlé dans cette première partie de l'émission. Nous allons maintenant plus précisément parler de cette exposition. Gérald, avant cela, je l'avais promis aux auditeurs.
Alors, une petite lecture. Un extrait, un ouvrage que j'ai trouvé en bouquinerie qui s'appelle Perspective au pluriel, édition SE, publié en 1995. Ça fera une transition puisque l'expo, en fait, est plus consacrée à la poésie. puisqu'il a son côté poète.
Ah bien.
Les récits, le théâtre, la radio, plein de choses. Son travail plastique, son œuvre plastique est là. Et donc la poésie, ça ne s'invente pas.
C'est le titre de l'exposition.
Donc c'est surtout la dimension poétique de Calafert qui est présentée, suggérée, on va dire, et plasticienne aussi.
Voilà, moi je dirais même que c'est vraiment réellement que la poésie, parce que pour lui, il était un poète. Donc on peut partir sur plusieurs supports, mais de toute façon, on revient à la poésie, même dans l'art plastique.
Et puis dans les récits, il y a de la poésie aussi. Donc là, il parle de l'art, hein, en 95, et il dit des choses intéressantes.
En 95, attention. Oui.
En 1995.
Mais alors, le livre est publié.
Post-mortem.
Voilà, le livre est
publié. Publication posthume. Très bien. Donc, Gérald, un extrait.
Donc, un petit extrait. La peinture n'est pas procédé au pluriel, la peinture est désir, la peinture est spontanéité, il se peut même que la peinture soit erreur, à condition d'être erreur mouvante. La fixité n'est pas peinture, la peinture doit être éblouissement, donc rapidité. Nous ne sommes plus en peinture à l'époque des confectionneurs. La peinture doit être fulgurance, la peinture doit être cette fulgurance. Le peintre n'a pas à fournir une image, il a à fournir une résonance de lui-même. En peignant, il suscite des indications qui d'abord lui sont personnelles, mais destinées à se détacher de lui en qualité d'élément d'éventuelles autres formations. De la sorte, comme tout artiste, le peintre est un isolé qui est nombre. L'art est envers du calcul. Ayant un format, l'œuvre s'assigne ainsi elle-même le périmètre spatial de ses vibrations mécaniques. Tandis que ces vibrations substantielles sont infinies, en rien dépendantes de ce format, lequel concerne en priorité l'œil, cet informateur automatique. Ensuite, rapidement, le contenu seul émet son rayonnement vibratoire. Bon, etc., etc. La peinture doit nous lier à la notion de lumière dans toutes ses variations. Il parle beaucoup de la couleur aussi. Enfin, c'est une théorie esthétique, on pourrait dire, hein, dans son ensemble. Et puis, l'ouvrage est parsemé donc de réalisations plastiques d'œuvres qui sont faites par Calafert. Et qui sont plastiquement aussi intéressantes et curieuses et assez inclassables, en fait.
Absolument.
C'est un expérimentateur.
Ça peut être intéressant de dire d'ailleurs que Calafert était un touche-à-tout, mais il était hermétique à deux choses qui sont la musique. Mis à part Bach, j'ai jamais lu qu'il ait aimé quoi que ce soit, alors que sa poésie est musicale, et le cinéma. Il se sentait pas d'atome crochu avec la musique et avec le cinéma.
Il n'aurait pas beaucoup apprécié l'adaptation cinématographique de La Mécanique des femmes, donc.
Oui,
qui a été adapté il y a déjà 10 ans.
Oui, à peu près, oui.
Je peux finir avec les perspectives. Donc ça finit en conclusion intéressante. Le confortable est maladie de l'art. Nous n'avons que faire d'un art qui nous confirme, nous avons besoin d'un art qui nous détruise. L'art doit être notre propre métamorphose intérieure. Un art qui ne nous sépare pas de nous-mêmes est anesthésie générale. Une adhésion sentimentale à l'art n'est qu'absence d'exigence, appauvrissement de l'art dans sa continuité, ses services. Il faut que l'art soit accomplissement majeur d'un temps. Le maniérisme tue l'art, il faut tuer le maniérisme. L'esthétisme tue l'art, il faut tuer l'esthétisme. Les modes tuent l'art, il faut tuer les modes. Le mauvais goût tue l'art, il faut tuer le mauvais goût. L'ignorance tue l'art, il faut tuer l'ignorance. Les habitudes tuent l'art, il faut tuer les habitudes. Le faux tue l'art, il faut tuer le faux. La tradition tue l'art, il faut tuer la tradition. Les règles tuent l'art, il faut tuer les règles. La facilité tue l'art, il faut tuer la facilité. La virtuosité tue l'art, il faut tuer la virtuosité. L'apprentissage tue l'art, il faut tuer l'apprentissage, il faut tuer ce qui tue l'art. Avec des vieilleries, on ne fait que des vieilleries. S'instaure un débat d'idées dont la complexion croît en proportion du développement de la connaissance, de ces multiples confrontations naît une expérience qui s'appelle l'art. Je ne demande pas au peintre en conclusion de voir, je demande au peintre de se disséquer. L'art est dissection, l'art est étonnement, il n'y a d'art que d'intuition, c'est-à-dire d'urgente nécessité. L'art ne s'apprend pas, l'art s'invente et se vit. Écrit à Besançon, à Blaisibas, en 1993.
Wow, un an avant la mort de Louis Calafert. Cette exposition, Clara et Gérald, vous deux qui êtes allés la visiter, que pourriez-vous en dire? Comment la présenter? Est-ce sur un grand espace? Est-ce assez
non,
réduit?
C'est donc, je disais tout à l'heure, les expos temporaires en général, l'espace dévolu aux expos temporaires, où il y a eu Truffemus il y a des années, il y a eu plein d'autres choses, caricatures, Daumier, les peintres voyageurs, enfin il y a souvent des expos très intéressantes à la Part-Dieu. C'est au quatrième étage, c'est un espace assez restreint.
Absolument.
Bon, on ne peut pas dire que ce soit un espace très, très majestueux, très adapté à la présentation de tableaux et d'œuvres plastiques, c'est un espace un peu ingrat, à mon sens, pour les artistes et les plasticiens et ceux qui s'occupent d'accrocher les œuvres, l'expographie et tout ça. Mais, quoi qu'il en soit, il y a des choses intéressantes. C'est une mise en bouche intéressante pour approcher l'immensité de la production de Calafert. Et on découvre des choses et il y a des pièces intéressantes.
Oui, moi je trouve ça toujours très émouvant de tomber sur des manuscrits comme ça. On l'a dit tout à l'heure, écrits à l'encre.
Même s'ils sont illisibles.
Oui, bon, on essaie de déchiffrer comme on peut. voilà, c'est, ça peut permettre de donner envie d'aller plus loin sans, voilà, sans que ce soit
très lourd. L'expo peut se voir. Bon, il y a une vidéo qui dure 1 heure et demie. Ça serait bien qu'on monte le son dans le casque parce qu'on a du mal à l'écouter, on n'a pas pris le temps de la regarder en entier. Sur internet, vous trouvez plein d'entretiens, ceux qui s'intéressent à Calafert à foison. Et dans le cadre de l'exposition, à un moment, il y a une vidéo où on voit justement son atelier, son bureau, sa maison. Voilà.
Puis beaucoup d'extraits d'œuvres aussi.
Voilà. Alors, quelles sont les différentes pièces de cette exposition? Ce sont donc, nous l'avons déjà évoqué en première partie de l'émission, vous l'avez redit à l'instant, des manuscrits. Donc, concrètement, ce sont des
pages... grand nombre de collaborations. Il y a des pochettes de disques. Léo Marjane, qu'on écoutait en début d'émission, vous avez la pochette du disque, vous avez le texte des chansons qu'il a écrites, toutes les collaborations, et bon, les spectacles et les musiques auxquelles ces poèmes ont donné lieu, quand ils ont été mis en musique. Vous avez des.
Les exemplaires eux-mêmes, les livres sont présentés.
Oui, oui. Et puis, surtout des très très belles éditions de livres d'artistes. Parfois, il y en a un notamment qui a été publié avec une quinzaine d'artistes. Mais dont certains sont devenus connus, Philippe Cognier, etc.
Que sont ces livres d'artistes? Il écrivait une préface, c'est ça? Ou c'est...
Non, il écrivait un texte,
des notices, un texte en
collaboration avec plusieurs plasticiens sur des propositions ou illustrateurs. Donc c'est toujours un aller-retour entre des plasticiens et un texte, en fait, à la base.
Et alors, c'est
des ouvrages parfois qui font 1 mètre sur 1 mètre en papier vergé très épais, enfin des livres d'artistes très très chers en édition limitée. Ils sont dans les vitrines qui sont très beaux.
Voilà, ils sont sous vitrine, on ne peut pas les feuilleter.
Non. Des livres d'artistes, généralement, c'est le problème de l'exposition.
Ils sont ouverts quand même, on peut.
Oui, mais on ne peut pas les feuilleter, ils sont ouverts sur une page qu'on peut lire. Du coup, l'exposition est très intéressante, mais on peut aller le voir ça en 3/4 d'heure, 1 heure déjà. Un aperçu intéressant. Et il y a aussi des objets.
C'est ce que j'allais dire, il détourne les objets pour en faire des
ça j'ai découvert, œuvres. Voilà. Donc il y a son côté plasticien, un peu brut, un peu naïf, autodidacte, coloriste, qui fait plein d'expériences plastiques. Et de l'autre côté, il y a le poète qui a la manière d'un Gerasim Luca d'ailleurs, ou d'un surréaliste, ou d'un dadaïste, dans le sens du ready-made de Duchamp. Il va détourner des objets pour lui donner un nouveau fonctionnement symbolique. Il y a notamment une œuvre, la plus grande qu'on ait vue, il y a 3-4 objets détournés. C'est des ready-made transformés, on va dire, au sens de Duchamp. Et là, bon, il y a une sculpture, c'est un mannequin, enfin une tête de marotte de coiffeur, peinte ou projetée assez violemment avec du sang rouge, et sur un petit napperon, posé sur une stèle, de manière classique mais assez agressive. Et le titre de ce tableau s'appelle « Vieille et douloureuse Europe ». Peut-être était-il aussi... un sculpteur prémonitoire de vin ou... Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Vieille et douloureuse Europe.
Absolument. J'ai lu justement dans Droit de Cité ce matin que je feuilletais, il a une phrase comme ça qui dit que le peuple français, c'est un peuple qui a besoin de se soulever contre l'intérieur. Et il s'interroge sur ce que va devenir ce peuple français quand l'Europe sera devenue un empire. Voilà, ça, c'est dans Droit de Cité.
Droit de Cité, c'est un écrit politique.
Voilà. Qui traverse l'histoire.
Cette exposition est-elle structurée? Est-ce qu'il y a donc d'un côté les manuscrits et de l'autre côté ces œuvres, avec en plus à l'intérieur une sous-division?
Non, c'est ponctué justement de choses diverses et variées, de manuscrits, d'éditions numérotées, limitées. Il y a des œuvres plastiques aussi originales exposées, tendues dans l'espace, de format plus important.
Mais c'est davantage un pêle-mêle, oui, effectivement.
C'est une optique pêle-mêle un peu.
Y a-t-il un petit document qui soit remis, une sorte de est-ce qu'un catalogue a été...
Non.
Non, il n'y a pas été publié.
Non, mais vous trouverez beaucoup d'informations sur le site de la Bibliothèque de la Part-Dieu, et même des gens qui lisent des extraits de Calafert sur Internet, on trouve. Il y a des lectures, en fait, par des anonymes, je pense. Il y a des prénoms et l'initial des noms de famille, et il y a des extraits de beaucoup de livres qui sont lus. Ça dure une, deux minutes, et c'est intéressant. J'ai écouté ça tout à l'heure. On pourra peut-être en écouter un.
Est-ce que Guillemette est présente? Non.
Non, je pense qu'elle est âgée, Guillemette.
Oui, Guillemette.
Elle est vivante.
À cette exposition,
la veuve.
Non, je pense qu'elle est rentrée en contact parce qu'elle est extrêmement active. Elle organise. Elle m'avait invité moi une fois parce que j'avais pris contact avec elle pour voir si je pouvais la rencontrer pour parler de son mari. Elle m'a envoyé un petit mot absolument charmant où elle m'a dit que non, en tant que lectrice, c'était à moi de faire mon travail, mais que voilà, elle se tenait à ma disposition, etc. Et elle organise comme ça à Blaisiba des sortes de petits colloques pour lui qui a l'affaire. Elle est extrêmement active. Moi, après sur cette exposition-là, je suis pas certaine, mais c'est possible qu'elle ait fait le voyage à Lyon. Ça m'étonnerait pas.
Il y a une
pas.
Association des amis de sans doute.
Voilà, c'est ça. Oui, elle s'occupe de l'association, exactement. C'est ça.
Je ne sais pas si cela peut être lié à l'exposition. Quel écho de Calafert encore actuellement? Gérald, tu trouves une prémonition chez lui dans des publications auparavant sur l'Europe, mais de manière générale, Mécanique des femmes a été adaptée au cinéma. Mais sinon,
injustement oublié. Il est surtout connu pour Septentrion, qui avait fait scandale, pour Requiem des innocents, qu'une génération a lu. Pour La Mécanique des femmes, qui avait été adaptée au cinéma, qu'on trouve en poche dans toutes les librairies. Mais
aurait-il eu des prix littéraires? Non, il n'a pas eu.
Ça, je sais pas.
Alors, s'il en a reçu, malencontreusement oublié. Et parce que de toute façon, il se fichait des honneurs comme il se fichait des mondanités. Donc, c'est vraiment pas. Je ne sais pas tout à fait, mais effectivement, c'est un auteur qui a eu son heure de gloire, comme ça, extrêmement brillant, projeté, jeune, talentueux, etc.
Ah mince, alors.
Et il est complètement tombé dans l'oubli jusqu'au point que moi, à la fac de Lyon 3, où j'ai fait mon mémoire, certains de mes professeurs ne connaissaient pas Louis Calafert ou ne l'avaient pas lu du tout. Ce qui est extrêmement intéressant. Et moi, quand j'ai découvert l'auteur, je croyais que c'était un homme inconnu. C'est en lisant un petit peu, voilà, parce que moi étant très jeune, voilà, je savais pas que je me suis aperçue qu'il avait été connu, mais il ne l'est plus du tout. Il est complètement tombé dans l'oubli, et c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait cette exposition et des émissions comme celle d'aujourd'hui pour donner aux personnes qui auraient envie de le découvrir l'envie de le lire.
Personne ne lui rend hommage, enfin du moins il n'y a pas d'écrivain actuel ou je ne sais pas, ou de cinéaste ou de plasticien qui disent oui, Calafert a été une grosse influence, a été quelque chose de déterminant. Je m'inscris tout à fait dans son
sans doute, mais bon.
Non, je pense qu'il est plus considéré comme un écrivain mineur aujourd'hui. On peut pas dire ce soit un grand nom du XXe siècle. Peut-être que ça va le devenir. Hein. On sait bien
quelqu'un
comme Stendhal a attendu 300 ans pour être lu. Il n'a pas été à son époque. Hein, ça peut venir, mais pour le moment, non. Oui, voilà, c'est ça. Comme tant d'autres, peut-être qu'il sera redécouvert effectivement.
Et donc cette exposition est une mise en bouche intéressante. Enfin, ça donne envie. D'ailleurs, concrètement, les bibliothèques de Lyon, il est possible d'emprunter des livres de Calafert, oui.
Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns en rayon, et puis sinon, on fait une demande
au silo,
et puis certains peuvent être empruntables, d'autres doivent être lus sur place, comme ils font. On a accès aux manuscrits comme toujours à la bibliothèque de Lapardieu, et ça, c'est assez merveilleux aussi.
Serait-il temps, Gérald, d'écouter alors,
un petit peu de poésie, Clara, un peu beaucoup de troubadour aujourd'hui.
Clara souhaitait faire une autre lecture, mais j'ai Prune qui est prêt.
On va écouter Prune, c'est très court.
Qui est prêt.
C'est marrant, ça annoncera l'été.
Une chanson de Dick Annegarn sur l'album Vélo Va.
Le dernier album.
Donc nous écoutons Prune et puis ensuite on repart sur des lectures et puis peut-être encore davantage, je ne sais pas. Il faudrait un instant qu'elle la tienne.
Il sera en concert à Fourvière cet été.
Il va nous rester 10 minutes. J'ai vu Pascal entrer. Donc
on lira encore des choses.
Aura bien lieu à 15h. Pour l'instant, donc Dick Annegarn, Prune. Et puis nous continuons toujours sur Spectaculaire, dans Spectaculaire sur les ondes de Radio Canu, radiocanu.org, ou bien la bande FM à Lyon, le 102.2.
Je suis une prune. Un ovoïde de fortune, un avatar de 2001, tapis dans l'univers des satellites. Je suis une prune petite, une petite pépite qui s'est mise sur orbite et dont la trace elle est écrite à l'encre blanche sur la pelouse. Je suis une prune pourpre, pour peu que l'on m'embrouille, pour peu que l'on me fouille au fin fond de l'ombrage, dissimulé par le feuillage. Je suis une prune sage. Mon jus de fruits est si juteux que j'en empare le nez des dieux et que mes yeux si audacieux séduisent les drôles de dames. Je suis une prune drupe. Je suis une prune de vie, de nouvelles vitamines m'illuminent, m'élimine la vermine et se termine en partie fine. Je suis une prune divine, à force de fréquenter les dieux au point de m'approcher des saints, je finis par moi-même me croire au-dessus de la Macédoine. Je suis une prune idoine. Je suis un cœur de moine et si je glisse si facilement dans la police du péché, c'est que je suis greffé d'un arbre fruste.
Pourquoi, Gérald, cette prune de Dick Angarn?
C'est le talent que j'aime chez Dick Angarn. Bon, il commence à faire un peu de showbiz aussi, lui, peut-être, mais ça fait 40 ans qu'il chante des merveilles, que j'écoute depuis l'âge de 14 ans. Et il est toujours aussi léger, poétique, fin, subtil, expérimentateur, très bon guitariste, très original, quoi.
Oui, mais
les gens ne supportent pas sa voix, cette voix un peu grasse hollandaise. Mais c'est vrai que c'est pour moi un grand compositeur-interprète contemporain.
Mais c'est de la musique, et Clara nous a dit il y a quelques instants, là, on pourra le réécouter en podcast sur le site de
Oui, mais c'est de la poésie.
Clara a dit que la musique, à part Bach, Calafert n'en a pas dit grand-chose. Oui, mais c'est, voilà, c'est de la poésie, c'est ça, c'est le texte qui est.
Oui, je trouve.
Qui relève de Louis Calafert.
Non, mais voilà. J'avais envie de faire écouter. C'est l'actualité aussi.
L'actualité. Donc, encore quelques minutes, il est 14h53, donc je ne sais pas, encore 5 minutes, mettons, à parler de cet auteur, de cet écrivain, de ce polygraphe.
On va peut-être faire des lectures, c'est ce qui sera le mieux.
Et voilà, donc Louis Calafert, exposé toujours, je le dis une dernière fois, exposé dans le cadre de cette exposition qui s'appelle La poésie, ça ne s'invente pas. Une exposition consacrée à Louis Calafert, 1928-1994, qui a commencé cette exposition le 8 mars, se termine le 31 mai, à la bibliothèque municipale de Lyon, c'est-à-dire à la Part-Dieu, enfin du moins dans celle de la bibliothèque du 3e. L'entrée en est libre, c'est au 4e étage. Et donc Clara, qui est ici, présente, nous a confié beaucoup apprécié Louis Calafert. Peut-être qu'on pourrait faire comme cela, dans quelques lectures, et puis après, une réponse à cette fameuse question. Pourquoi ? Pourquoi Louis Calafert ? Pourquoi s'y intéresser ? Pourquoi cette mise en bouche à la bibliothèque est intéressante et peut donner envie de lire ? Enfin, du moins, qu'est-ce qu'on peut trouver chez cet auteur ? Alors, réponse avec un texte, c'est ça, par exemple ?
Oui, sur la lecture, justement.
Ah, bah alors,
au début de Septentrion, je veux rien dire de plus, je vais lire. Dès que j'avais un livre, mon premier soin était de m'enfermer avec dans ma chambre d'hôtel comme pour une séance d'initiation. Et je ne décrochais pas avant d'en avoir terminé, qu'il eût 200 ou 1000 pages. Lire les paroles qu'un homme, dont on ne connaît généralement ni le visage ni la vie, a écrites tout spécialement à votre intention, sans oser espérer que vous les liriez un jour, vous qui êtes si loin sur d'autres continents, d'une autre langue. Peut-être habite-t-il actuellement dans une grande maison de campagne au bord du Tibre, ou un 47e étage dans New York illuminé. Peut-être est-il en train de pêcher l'écrevisse, de piler la glace pour le whisky de 5 heures, de caresser sa femme sur le divan, de jouer avec ses enfants ou de se réveiller d'une sieste en songeant à tout ce qu'il voulait mettre de vérité dans ses livres, sincèrement persuadé de n'avoir pas réussi, bien que tout y soit quand même, presque malgré lui. Il l'a écrit pour vous tous, parce qu'il est venu au monde avec ce besoin de vider son sac qui le reprend périodiquement, parce qu'il a vécu ce que nous vivons tous, qu'il a fait dans ses langes et buts au sein il y a de cela 30 ou 50 ans, a épousé et trompé sa femme, a eu son compte d'emmerdement, a peiné et rigolé de bons coups dans sa vie, parce qu'il a eu faim de corps jeune et de plats savoureux, et aussi de Dieu de temps à autre, et qu'il n'a pas su concilier le tout de manière à en être en règle avec lui-même. Il s'est mis à sa machine à écrire le jour où il était malheureux comme les pierres à cause d'un incident ridicule ou d'une vraie tragédie qu'il ne révélera jamais sous son aspect authentique parce que cela lui est impossible. Mais il ne tient qu'à vous de reconstituer le drame à la lumière de votre propre expérience. Et tant pis si vous vous trompez du tout au tout sur cet homme qui n'est peut-être en fin de compte qu'un joyeux luron mythomane ou un saligo de la pire espèce, toujours prêt à baiser en douce la femme de son voisin. Qu'il ait pu écrire les 200 pages que vous avez sous les yeux doit vous suffire. Qu'il soit l'auteur d'une seule petite phrase du genre « À quoi bon vous tracasser pour si peu ? Allez donc faire un somme en attendant » le désigne déjà à nous comme un miracle vivant. Même si vous deviez oublier cette phrase aussitôt lue et n'y repenser que le jour où tout va de travers, à commencer par le réchaud à gaz ou la matrice de votre femme. Et si par hasard vous avez la prétention de devenir écrivain à votre tour, ce que je ne vous souhaite pas, lisez attentivement et sans relâche. Le Littré, les articles de dernière heure, les insertions nécrologiques, le bulletin des monstres de Queen Lisbeth. Lisez, lisez tout ce qui passe à votre portée. À moins que, comme ce fut souvent mon cas, vous n'ayez même pas de quoi vous acheter le journal du matin. Alors, descendez dans le métro, asseyez-vous au chaud sur le bon poisseux et lisez. Lisez les avis, les affiches. Lisez les pancartes émaillées ou les papiers froissés dans la corbeille. Lisez par-dessus l'épaule du voisin, mais lisez. Si votre bonne étoile est avec vous, vous avez une chance de trouver une connasse à la traîne qui est la chatte en éruption, ce qui vous assurera le lit en espérant mieux. Mais une fois casé par la providence généreuse, n'oubliez pas de lire.
Cet extrait de quelle œuvre?
C'est dans Septentrion. L'œuvre à lire en premier, ce précis.
Voilà. Parfois difficile, hein. Parfois effectivement lire avec un dictionnaire très référencé, pas toujours facile.
Hein. Publié en quelle année, Septentrion? C'est pas très important. Je pense comme ça.
60 et quelques.
63, je dirais. Mais...
Mmh. En 74, ouais. Arléa vient de rééditer Paraf, et en 74, il se dédie lui-même son ouvrage à lui, à Louis Calafert, hommage de l'auteur, Louis Calafert. Et en quatrième, il dit là, un peu la même chose. Enfin, pas la même chose, mais je sais bien qu'il y a au moins quelqu'un quelque part qui lit avec attention, même avec amour, ce que j'ai écrit uniquement pour moi et pour lui. Mais nous ne nous connaissons pas, nous ne nous connaîtrons jamais. C'est beau, mystérieux. Voilà une invite à aller rencontrer Calafert. J'aimerais lire un extrait
parce que Satori. Le temps a filé, on ne pourra pas écouter Élise Caron, on pourra seulement écouter le générique.
Alors Satori, c'est en poche, folio. Voilà une liste nominative qui me plaît bien, que j'avais cochée. Texte 17. Hospice, asile, sana, police, suicide, urgence, main armée, délinquance, sclérose, sérum, résection, foudroyé, flagrant délit, famine, insurrection, cancer, malversation, exil, thermocotère, amputation, pistolet, gangrène, escarre, proscription, épidémie, débâcle, pilon, bandage, vaccin, réclusion, bacille, faussaire, séquelle, trépant, sadique, déraillement, explosion, fusillade, ablation, cour d'assises, proxénète, bistouri, escarmouche, saignée, tétanos, quinine, éboulement, cyanose, maison de force, glaucome, effraction, avalanche, traumatisme, seringue, répression, attentat, occlusion neurologue, Golgotha, laxatif, escroquerie, syncope, inondation, bagarre, transfusion, léthargie, trahison, cataclysme, congestion, guillotine, cachexie, dissection, assassin, gynéco, crétinisme, typhoïde, drain, sonde, agrafe, ouate, suture, prothèse, infection et prophylaxie, l'enfer, nom de Dieu, l'enfer. Je leur parle avec des mots poétiques, ils font un effort pour ne pas me rouer de coups. Je les regarde avec des yeux empreints de bonté, ils me rendent des regards de l'âme. Je leur souris avec sympathie et confiance, ils crispent leur bouche mince. Alors je m'en vais et ils me fusillent dans le dos. Voilà, c'est fort. Et je vous conseille pour finir Droguerie du ciel, excellent dictionnaire qui ressemble beaucoup aux éditions SE, trouvé par hasard il y a 20 ans déjà, un excellent dictionnaire personnel comme a pu faire Michel Léris dans Langage t'engage, avec des définitions revisitées par
c'est
exemple.
C'est que les mots me disent, oui.
On a des mots,
ouais, allez, c'est
macabre,
c'est
arbre de marbre, mât et glabre, masque des caves ambrées, villes étouffées aux cernes macabres. Magnifique, magnifique comme la mort. Main, mauve magicienne, main gantée des pensées secrètes, l'eau des torrents circule à main nue. Maquillage, maquis du servage de l'âge, sillage des marquis, maquignon du grand large, etc., etc. Encore ?
Gérald, c'est terminé, c'est la musique du générique qui retentit. Ah mon Dieu, il est 15h, Pascal va nous en vouloir, le blues des canuts doit commencer, spectaculaire s'achève. Merci beaucoup Clara.
Merci à vous.
Vraiment très intéressant. Auditeurs, réécoutez cette émission, il y a eu quelques problèmes techniques, mais bon, vous pourrez tout retrouver sur le blog de Spectaculaire. Il y a également un site, une sorte de micro-site, sous-site, à l'intérieur du site de la bibliothèque, bm-lyon.fr. Il faut taper différents trucs, 14, Calafert Exposition, et vous aurez beaucoup de renseignements.
3 jours seulement.
Rendez-vous.
Vendredi et samedi, et après-midi, mais ça ne nous empêchera pas de lire Calafert plus tard.
Rendez-vous le 3 juin pour dans la République du Bonheur, une pièce de Martin Krimp qui sera mise en scène aux Subsistances. Et puis voilà, allez, Pascal arrive.
Et merci à Clara qui reviendra pour Cabaret Biscornu.
Allez, au revoir tout le monde.